Sous l'arbre à palabre avec Monico sur Marmite FM 88.4. L'arbre à palabre avec Monico sur Marmite FM 88.4.
Bonjour, c'est Monico sous son arbre à palabre sur Radio Marmite 88.4. C'est le deuxième volet de l'émission avec Geneviève qui, depuis La Réunion, a un projet sur les dom-tom et elle va nous en parler. Bonjour Geneviève.
Bonjour.
Donc ce projet-là, tu peux nous en dire plus
Alors pour ceux qui ont suivi la première émission, il est né d'une rencontre avec une maman d'élève qui était venue à la représentation de l'adaptation d'une adolescence au Sahel. Et cette maman d'élève, qui était professeure des écoles, venait d'apprendre qu'elle perdrait la vue à courte échéance. Et lors du dernier salon de littérature jeunesse, nous étions avec la maquette de l'album « Regards croisés sur le Sahel » côte à côte avec une dame qui venait des Seychelles, qui était toute cassée, et qui avait juste une petite plaquette, un petit bouquin qui s'appelait, un petit fascicule qui s'appelait « Le pays d'en bas la mer », qui parlait de différence et de solidarité, et qui malheureusement était épuisé depuis plus de 20 ans. Et donc, comme ça, spontanément, je lui ai dit « Mais on pourrait retravailler sur sa réédition avec mes jeunes ?» Et comme cette maman d'élève allait perdre la vue, ben, on pourrait travailler à le rééditer et qu'il soit accessible à des déficients visuels. Et le projet est né comme ça.
Ben dis donc, vous avez fait coup double, coup triple, parce que...
Alors, oui. Voilà. Donc,
elle a dû être heureuse, cette femme, de voir que
tu
comprenais...
Ça a été un peu une planche de secours aussi, oui, puisqu'on peut deviner ce que ça crée comme perturbation d'apprendre ce genre de nouvelles. Donc, dès le départ, nous avons associé des enfants déficients visuels à la démarche et nous avons essayé de travailler avec un illustrateur conventionnel, puisque l'idée, notre ambition au départ, c'était de solliciter les éditeurs tout public de façon à ce qu'ils prennent en compte au moins 2 à 3 fois par an quand ils éditent un album jeunesse, des déficients visuels, au moins des malvoyants.
Oui.
Puisqu'en ayant beaucoup discuté avec des libraires, ils me confient que de plus en plus, on a des livres avec des fonds colorés qui rendent très difficile la lecture, même pour un enfant voyant. On a des polices de caractère qui parfois sont très difficiles à déchiffrer pour des enfants qui débutent la lecture. Et donc, on a rencontré un grand intérêt. En revanche, on a eu beaucoup de problèmes à travailler avec l'illustrateur qui a fait tout son possible. On mettait en relief ces schémas de façon à ce que les enfants complètement aveugles puissent être associés, puisque dans une classe, il y a des malvoyants et des non-voyants. Et on s'est vite rendu compte que cet album qui est paru, puisque les éditions Orphi ont eu le courage d'accepter de jouer le jeu, l'album est paru aux éditions Orphi en très gros caractère, avec le texte toujours placé à gauche, sur un fond uni. C'était déjà un premier pas en très gros caractère, avec un très léger effet tactile qui pouvait être utile pour les malvoyants à focaliser sur les héros. Seuls les héros avaient un effet tactile, mais on s'est vite aperçu que c'était insuffisant pour des enfants très malvoyants. Donc parallèlement, on a essayé d'avancer sur un projet d'album tactile et braille.
C'est celui-là. Voilà. Qui là aussi, c'est dommage que vous ne le voyez pas parce qu'il est magnifique.
Voilà.
Magnifique.
Il a été édité aux éditions spécialisées Les Doigts qui Rêvent.
Les Doigts qui Rêvent. J'ai vu ça, je me suis dit, ça parle, ça, c'est magnifique.
Donc c'est un projet de très longue haleine puisqu'il a fallu déjà convaincre cet éditeur. Il est venu à La Réunion dans le cadre d'un projet plus large. Nous lui avons fait rencontrer ces jeunes. les jeunes non-voyants qui... On a fait une réunion où
ça a dû le motiver, non?
Bah, il nous expliquait que ce compte-là, il n'en voyait pas trop l'intérêt, parce que ce sont quatre petits animaux nés différents qui évoluent dans la mer, donc que ça pouvait aller peut-être pour les dom-toms, mais que... Et puis finalement, un petit gamin de 7 ans a tapé le poing sur la table, a demandé la parole au moment où la réunion était sur le point de se finir, et il a dit... Je vous demande votre attention. Ce que raconte ce conte, c'est ce que nous vivons tous les jours. Alors, nous, nous trouvons qu'il est très important de l'éditer en braille et en illustration tactile. Et là, l'éditeur a dit, je ne peux que m'exécuter. Mais s'exécuter, ça a demandé quand même tout un travail de conception, d'autant que le conte était long. Donc, ça a pris plus de 3 ans à partir de cet engagement-là.
Donc, il s'appelait comment cet enfant ? Tu te rappelles
Thomas.
Son nom ? Thomas.
Thomas. Thomas, mais il était le porte-parole
enfants. Il a bien rempli sa mission et il ira loin, le Thomas.
Alors, parallèlement, nous avions réalisé un spectacle de marionnettes tactiles, donc accessible à tout public, mais les enfants non-voyants pouvaient venir explorer le décor, donc il y avait plein de sensations tactiles qui devaient évoquer le milieu marin, et les marionnettes aussi, quand on les touchait, devaient évoquer les vrais animaux. Donc, ça a eu un succès fou aussi bien auprès de...
Et tout ça, c'était toujours à la Réunion.
Toujours à la Réunion.
Ben dis donc, ça passe des choses à la Réunion. Hein.
Donc, ça a eu un grand succès, au point que les enfants non-voyants ont voulu jouer la pièce eux-mêmes.
Oui.
Donc, on avait obtenu auprès d'Emmaüs des peluches qui évoquaient ces animaux et qui permettaient à ceux qui avaient des troubles neurologiques, donc qui pouvaient avoir... qui aurait pu se blesser avec nos marionnettes, de jouer aussi la pièce. Et cette pièce, ils l'ont jouée le jour où on a inauguré l'album paru chez Orphi, en gros caractère. Et quand on a inauguré l'album tactile, on a voulu leur offrir en retour quelque chose qui les prépare, puisqu'ils grandissaient au fur et à mesure, à leurs futures études de collégiens. Et donc, on a concocté avec un centre d'études des tortues marines une visite tactile du centre.
Oui.
Donc, avec des tas de mises en scène, on a reconstitué des traces de tortues marines, on a fait un trou de ponte, ils déposaient des œufs dans le trou de ponte, ils avaient à refermer le... Et ça, c'était aussi dans le but de continuer. C'est un projet qui vise à sensibiliser un maximum de partenaires. Donc, le but, c'était de donner envie... au musée, au centre d'accueil,
de se sentir prendre, solidaire
d'essayer d'être créatif au-delà de simplement mettre 2-3 inscriptions en braille et de se sentir dédouané. Donc ça a eu un bon succès.
Ça a été une prise de conscience beaucoup par rapport aux libraires, aux musées. Enfin, ça a fait bouger beaucoup les choses. Ça.
Et parallèlement, quand on avait fait ce spectacle, mes élèves, pour aucun de mes élèves, le français n'était une langue spontanée, puisque les créoles avaient le créole réunionnais. Les Maorés, le Chimaoré ou le Chibouchi, ceux d'origine malgache.
C'est là aussi que j'ai. En fait, on en apprend tous les jours. J'avais jamais pensé à la diversité de créoles qu'il pouvait y avoir. C'est incroyable.
Donc, dans un premier temps, j'ai proposé à mes jeunes, pendant le spectacle, qui étaient très inhibés par rapport. Alors qu'ils avaient beaucoup de mal quand on a préparé la version en français. Qui étaient très inhibés par rapport à l'idée de dire le conte dans leur propre langue. Donc j'aurais dit, dites au moins un petit extrait, vous verrez comment le public réagit. Et quand ils ont vu le succès que leur initiative a eu auprès du public, j'aurais dit, maintenant, on ne va pas seulement enregistrer le conte en français, on va l'enregistrer dans vos langues maternelles.
Très bien.
Le projet a commencé comme ça. Et puis après, je me suis dit, mais on est dans une île créolophone, mais ça serait peut-être intéressant en langue et culture régionale que les jeunes puissent comparer les versions de créole déjà de l'océan Indien, séchellois, mauricien, rodriguais.
Qui en a informé, Zoé, qui t'y bien aimé. Zoé vive en paix dans un joli petit lacas, dans un joli tout courail.
Et puis aller plus loin, aller vers les Antilles, la Guyane.
Itégar un jour, tant dit tant, tant longtemps, tant d'ailleurs tant diap t'es tibolom, tant bon dieu t'es qu'à calculer à sous l'ennui de quel jour. On a un pays au fond l'en main, où la famille pieuvre t'es qu'à vivre au bidule en a une jolotte roche.
Donc nous avons édité plusieurs CD successifs,
oui.
Dont un uniquement qui décline tous les créoles disponibles liés au français.
Oui. Alors pour la petite histoire, j'en parlais déjà dans la première émission. En fait, comme j'allais en Louisiane, tu m'as demandé, il te manquait le créole de Louisiane, et tu m'as demandé si je pouvais arriver à trouver des gens qui pouvaient faire la traduction. Mmh. Donc on verra la suite, en espérant que ça marchera et que tu auras tous tes créoles.
Voilà. Et puis en 2009-2010, ça approchait l'année des Outre-mer. Donc l'idée, c'était aussi de s'intéresser à... Il y avait eu un grand travail de Vergès pour regrouper les dom-tom-com, de façon à élaborer des revendications communes et aussi à voir les potentiels communs, à échanger. Donc dans cet état d'esprit, nous avons eu le projet d'éditer un double CD qui devait être édité cette année-là et qui a mis plus de 5 ans à voir le jour, parce que ça a été très très compliqué d'avoir certaines contributions. Et de ce point de vue-là, j'étais assez désemparée, puisqu'il y avait nombre d'associations, aussi bien à La Réunion qu'en métropole, que j'ai sollicité. Mais très souvent, ces sites ne sont pas réactualisés, ce qui fait que les sollicitations tombaient dans le vide. Et finalement, il y a eu des hasards très étonnants. Par exemple, la version en polynésien a été enregistrée en Haute-Marne, au fin fond d'un village. Donc, c'est assez étonnant.
Oui.
Et la version wallisienne, qu'on a attendue pendant de nombreuses années, puisqu'il y a eu beaucoup de pistes qui se sont avérées infructueuses, on l'a eu très tardivement. Mais toutes les îles sont représentées. A priori, toutes celles qui ont bien voulu participer sont représentées dans un CD, La Réunion des Trois Océans. La Réunion faisant référence à l'origine du projet et les Trois Océans.
Alors, c'est à partir de cette fameuse histoire, redis-moi le titre, c'est...
Le pays d'en bas la mer.
Et tu peux nous la raconter un peu l'histoire ?
Oh ben, c'est l'histoire d'une maman pieuvre qui découvre... la naissance de ses petits, qu'une des pieuvres, qu'une des ourites, ça parlera, ou chatou, pour les Antillais, a un tentacule en moins. Donc c'est un conte qui permet de mettre en scène aussi les réactions de l'entourage devant le handicap. Donc il y a l'incompréhension, la douleur, la colère, certains pères, l'inquiétude sur comment le petit va se débrouiller. Donc il y a un homard, parce que la psychologue était d'origine belge, donc elle a pensé au homard, ce qui m'a posé de gros problèmes, puisque dans l'océan Indien, on trouve des langoustes, mais pas vraiment des homards. Et donc un homard qui naît avec 4 pinces au lieu de 2, ce qui est perçu comme une anomalie par les frères et sœurs qui se moquent de lui, puisqu'il ressemble à un crabe. Et puis il y a un poisson perroquet, qui a normalement une mâchoire très dure pour casser le corail et qui naît avec des lèvres de mérou, donc qui peut absolument pas se nourrir seul, mais qui par contre peut faire des super baisers. Et puis une tortue qui naît sans carapace. Donc on va voir comment...
En fait, il y a plusieurs handicaps.
Il y a quatre, Donc c'est intéressant parce qu'on voit suivant la personnalité de chacun, donc certains qui effectivement se replient dans leur trou, qui intériorise complètement la vision négative qu'on peut avoir d'eux. Et puis la tortue, elle, qui va de l'avant et qui estime que puisqu'on se moque d'elle, elle va chercher des amis plus accueillants. Et au départ, j'avais une petite réticence. Cette psychologue qui avait écrit ce conte l'avait fait de façon très, très intentionnelle, puisque le gouvernement séchélois lui avait demandé de se rendre à l'école dite exceptionnelle, qui était à l'époque, au tout début, une espèce de cours des miracles où ils avaient rassemblé tous les enfants porteurs d'un handicap.
Oui.
Et donc, ils lui demandaient d'essayer de faire l'inventaire des besoins de chacun.
Oui.
Et c'est quand même pas facile de faire cohabiter un autiste hypersensible au bruit avec un sourd qui va éventuellement être très bruyant. Et donc, ce conte avait été édité dans ce cadre-là pour inciter les enfants à plus de tolérance et d'ouverture à la différence des uns et des autres.
Déjà, au sein de l'handicap eux-mêmes, entre eux.
Alors, je sentais venir l'objection d'enseignants qui allaient me dire « Oui, mais là, finalement, c'est un ghetto. » Et puis, vous induisez l'idée que les handicapés doivent vivre entre eux. Donc, j'avais demandé à l'auteur si elle m'autoriserait à intégrer un personnage qui ne serait porteur d'aucun handicap visible, qui irait simplement vers les autres, par curiosité positive. Elle était un peu réticente à cause de l'histoire de ce conte, mais elle avait accepté. Et on a préféré le tester avec des enseignants dans les classes, et on s'est aperçu que c'était inutile, parce que chaque enfant a souffert un jour ou l'autre d'une discrimination. Parce qu'il a des taches de rousseur, parce qu'il est plus foncé que les autres, parce qu'il est plus clair sur fond, parce qu'il a les cheveux...
Il est trop gros.
Voilà, il a les cheveux frisés, parce qu'il est gros, etc.
Donc ça leur parlait.
Et donc ça leur parlait à tous. Et aucun d'entre eux n'a eu cet a priori que nous avions, nous, en tant que pédagogues. Donc nous avons conservé le conte dans sa mouture d'origine. Et on a eu, en fait, les mêmes réticences de certains, par exemple, pour la version mahoraise. J'avais des élèves qui parlaient le chimaoré et d'autres qui parlaient le chibouchi, qui est d'origine malgache. Et donc, une bibliothécaire m'a dit « Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait deux versions différentes ? Une chibouchi, une chimaoré ?» J'ai dit « Ben madame, parce que sur cette île sont censées cohabiter des personnes qui parlent de langues différentes. Quand on est sur un conte sur la différence... »
La Réunion est par définition... une île où il y a des gens qui viennent de...
Et Mayotte était aussi une île où ces deux langues coexistent et qu'il était important de faire un peu un effort aussi les uns vers les autres et pas une langue dominante par rapport aux autres. C'est dans ce cadre-là aussi qu'on a édité, le dernier CD édité, a voulu rendre hommage à toutes les communautés ou toutes les personnes qui ont contribué à la création et au développement économique de la Réunion, et y compris des communautés qui ont perdu leur langue, l'accès à leur langue d'origine, parce qu'il y avait une politique très, très coercitive à cette époque-là. Et donc, sur ce CD, le dernier, La Réunion des langues, on évoque aussi bien les tout premiers Chinois qu'on a fait venir à la Réunion, dont la langue est le Hakka, et ce qui est étonnant, c'est que la personne qui l'a enregistré, c'est une personne très nouvellement arrivée de Chine, mais qui fait partie de cette communauté, alors que ceux qui sont d'origine de cette région ne le parlent plus depuis longtemps. Donc c'était cette notion de reconnaître chacun sans discrimination.
Donc en fait, il y a eu toute la richesse du travail de par rapport à l'handicap, mais en même temps... d'unité à travers ce projet
de fédérer autour d'un projet solidaire.
C'est magnifique
et ça avait l'intérêt aussi de par mon travail je m'aperçois que très souvent les associations ou les élans, les dynamiques sont très cloisonnées. Donc on s'occupe du handicap, mais par exemple de tel handicap et pas d'un autre. On s'occupe de protection de l'environnement, mais on se pose jamais la question de s'appuyer sur les connaissances locales. Donc l'idée c'était de fédérer, de faire se rencontrer des spécialistes du handicap avec des spécialistes des langues régionales, des spécialistes de la déficience visuelle avec des personnes sourdes, par exemple, puisque, par exemple, dans certains centres, il y avait à la fois des sourds et des non-voyants. Et quand j'essayais de dire, mais on pourrait travailler avec les deux, ah non, mais ce sont deux antennes séparées dans le même centre. Et par exemple, quand nous avons inauguré la Réunion des langues, le dernier CD, le jour de la Journée européenne des langues, ce qui était une façon d'affirmer que la Journée européenne, c'est pas seulement la journée des langues dominantes en Europe. Nous avons invité les enfants sourds à venir proposer le spectacle en langue des signes, qui est une langue à part entière, ce que très peu de personnes savent, et qui est reconnue comme telle. Donc voilà, on a essayé à chaque fois de créer une ouverture supplémentaire. Et on a essayé aussi de faire prendre en compte le fait que les oreilles, les gens d'origine du continent, de la métropole, venaient aussi parfois de cultures régionales. D'où l'idée d'enregistrer un CD qui décline le conte dans les langues côtières.
La Bretagne.
Depuis la Corse, Provence, Pays catalan, Pays basque, Bretagne. Et en Bretagne, pareil, on parle souvent du breton, mais il y a aussi le gallo qui était pratiqué par les non-bretonnants et qui est une langue romane, qui est du vieux français en fait. Et pourquoi on a voulu absolument avoir cette version-là ? Parce que dans le créole réunionnais et dans la musique réunionnaise, on retrouve des phrases musicales, voire des instruments et des mots qui sont issus du gallo. Voilà. Donc c'était aussi un clin d'œil. Très souvent, on a une vision très simpliste. Forcément, le zoreille, c'est le blanc dominant, le colonialiste, etc. C'était aussi des marins, des charpentiers de marine, qui parfois ont échoué. Tous n'avaient pas le choix, parce qu'ils arrivaient en fin de contrat à La Réunion, qui ont apporté un savoir-faire artisanal. C'était aussi des petits paysans déshérités. Et ce n'était pas le français de la cour de France. Donc c'était aussi faire référence à cette dimension sensible et à cette notion d'exil pour ces personnes-là.
Eh bien, dis donc, je reste baba là. J'ai presque pas parlé d'ailleurs par rapport aux autres émissions. Mais parce que j'étais captivée. Hein. Mais ça représente un sacré boulot, hein, tout ça.
C'était dur de garder une détermination sans faille, parce que le problème, c'est que quand on décide d'enregistrer un CD en langue des Don Tom Com, il faut que toutes les îles soient représentées, sinon le projet n'a plus de sens. Et par exemple, pour la Nouvelle-Calédonie, où il y a plus de 40 langues officielles et énormément de parlées, on a été contente d'en avoir au moins une pour représenter le...
Alors comment tu faisais? Tu t'es déplacé ou tu avais des liens?
J'ai tout fait, mais même je me suis déplacée. Je me suis déplacée en Martinique, je me suis déplacée en Martinique. D'ailleurs, le conte a été édité chez Orphi. Orphi a accepté. Il a été édité en bilingue créole réunionnais français et en bilingue créole martiniquais français. Voilà. Donc j'étais allée
Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi là maintenant?
Il faut savoir que les droits d'auteur des livres édités, des albums jeunesse édités chez Orphi sont reversés au profit de projets qui concernent des enfants handicapés de pays en développement. Donc la première fois, ça a été Handicap International Madagascar. La fois suivante, ça a été l'école exceptionnelle, ce qui était un juste retour des choses. Donc, ils sont minimes. Il faut savoir que dans un album de jeunesse, les droits d'auteur c'est l'illustrateur qui touche le maximum. Les CD sont auto-édités par le lycée agricole, puisque l'éditeur était réticent à s'engager dans les procédures de droit, etc. Donc, on peut se les procurer auprès de nous en te demandant les contacts. Il y a donc 4 CD qui existent actuellement. Et sinon, il y a une petite exposition aussi en format 3 plastifié qui explique toute la démarche qui a été faite avec les enfants déficients visuels et aussi pour l'adaptation sous forme de spectacle de marionnettes. Bien évidemment, ça serait super que d'autres enseignants ou animateurs s'approprient le projet.
À ce moment-là, l'exposition et tout ça, c'est comment elle peut venir vers nous?
Alors,
Je
peux venir, la porter, mettre à disposition. Oui. C'est vrai que...
Je sais que tu reviens au mois de mai.
Oui, je reviens au mois de mai.
Il faudrait voir si...
Ce qu'on souhaite, c'est vrai que, aussi bien pour l'exposition Sahel que pour celle-ci, c'est vrai qu'elle a du sens, surtout s'il y a une médiation avec. Après, ça peut être dans un CRDP, un centre régional de documentation pédagogique, pour voir. Moi, quand je l'ai conçu, c'était pour permettre, par exemple, à un enseignant qui apprend à la rentrée qu'il va accueillir un enfant handicapé, qui n'a aucune notion, ce qu'on ne peut pas lui reprocher, des besoins de cet enfant. Et très souvent, on dit oui, mais l'enfant aura une assistante avec lui. Mais déjà, elle n'est pas forcément toujours là. Oui. Et puis, il faut imaginer pour cet enseignant qui, d'un seul coup, est confronté à cette nouvelle, qui n'a pas du tout eu le temps de se préparer et qui doit assurer pour toute la classe. Oui. Donc, l'idée, c'était de montrer comment on peut profiter de cette richesse potentielle de la présence d'un enfant handicapé au lieu de penser comme une charge supplémentaire. et de lui proposer des
outils. Une richesse pour toute une classe.
Voilà.
Et montrer aux enfants que celui qui est différent leur apporte aussi beaucoup de choses.
Voilà, parce que je vous ai parlé de cette enseignante voyante qui perdait la vue, mais elle continuait à enseigner. Et ses enfants ont du coup accueilli, sa classe a accueilli les fameux enfants qui ont travaillé sur l'album tactile, qui sont venus animer des ateliers de braille, d'écriture en braille, de machine braille, qui sont venus animer des ateliers de circulation avec la canne blanche, les yeux bandés. Et donc, l'idée, à chaque fois, c'était d'inverser le regard.
Oui.
Et c'est pour ça que le projet, au départ, s'appelait « Déficient visuel, expert tactile ».
Oui.
C'est-à-dire que, pour faire face à ce handicap, dans une société qui est formatée pour valoriser, survaloriser le visuel, ben, les personnes handicapées visuelles développent une expertise tactile qui ne nous est pas accessible, même si je m'y forme depuis X temps.
Oui.
Et donc, les enfants qui, au départ, soit sont indifférents, soit inquiets à l'idée d'accueillir un enfant déficient visuel.
Oui, parce que quand tu dis l'enseignant qui va avoir... Mais il y a l'enseignant, mais il y a toute la classe qui est concernée.
Mais c'est vrai que l'accueil de la classe dépend essentiellement
de l'enseignant.
Des présupposés, des a priori de l'enseignant. Mais au départ, au mieux, c'est de la pitié.
Oui.
On a fait, à chaque fois qu'on intervenait ou qu'un enseignant faisait, puisqu'on a proposé à des écoles de s'associer à notre démarche dès le départ, hein, donc d'essayer d'élaborer des propositions tactiles, de les soumettre aux enfants déficients visuels, qui leur ont dit « Ah ouais, mais ça peut pas fonctionner parce que je reconnais tout de suite que c'est du plastique à bulles. Ah ben ça marche, parce que c'est vrai que ça, quand je caresse, ça ressemble à des écailles de poisson. » Donc il y avait cette idée de transformer ces personnes qui étaient perçues comme ayant en moins en experts.
Oui.
Et les
oui.
enfants ont été très admiratifs.
Oui. Oui.
Ça a changé complètement le regard et durablement, sans faire
oui.
de morale.
Oui.
C'est extrêmement efficace. De la même façon que quand j'intervenais en atelier d'écriture en Tiffinard, ces enfants qui au départ m'accueillaient comme quelqu'un qui allait quasiment chez des sauvages,
oui.
repartaient en disant mais ils vont pas à l'école mais ils savent plein de choses,
oui.
ils savent repérer
oui.
des traces de chameaux,
oui.
moi je saurais jamais,
oui.
ils savent circuler la nuit sans
bien
lampe
sûr,
de poche, ils savent écrire en Tiffinard et donc c'est vraiment inverser le regard sur l'autre qui passe d'une certaine commisération à de l'admiration. Voilà.
Eh bien, écoute, Geneviève, on boit tes paroles et puis justement, ça tombe bien parce que, comme tu le sais, en France, il se passe beaucoup de choses en ce moment. On est dans une période qui est un peu troublée et que des projets et des choses qui parlent de tolérance, d'ouverture sur l'autre, de solidarité, eh bien, ça fait du bien. Et je te remercie beaucoup de nous avoir parlé de tout ça.
Merci
et parmi les gens qui nous entendent, s'il y a une école ou une structure qui a envie d'en savoir plus et d'avoir un projet, ben, nous sommes là. Merci beaucoup, Geneviève, et bon retour à La Réunion, puisque tu vas y retourner. Mais tu reviens au mois de mai, donc ça, on l'a retenu. Et c'était Monico sur Radio Marmite 88.4.
Sous l'arbre à palabre. Avec Monico sur Marmite FM 88.4. L'arbre à palabre avec Monico sur Marmite FM 88.4.